Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous, rassemblement devant une prison, vidéoconférence de l'indépendantiste Carles Puigdemont face à un camp unioniste ultra mobilisé. C'est une bien étrange campagne électorale qui s'est achevée hier soir en Catalogne. Les élections régionales convoquées par Madrid auront lieu demain, jeudi, et les deux blocs sont au coude à coude dans les sondages. Et dans cette campagne, les discussions ont surtout tourné évidemment autour de la question de l'indépendantisme, mais rien quasiment sur les sujets sociaux, ce que regrettent les associations. À Barcelone, c'est le reportage de Laetitia Farine.
C'est un moment de télévision qui restera dans la mémoire des Catalans. Peu après le début de la campagne, la chaîne TVE organisait un face-à-face inédit entre Inés Arrimadas, la candidate du parti de centre-droit Ciudadanos, et Marta Rovira, la candidate du parti de la gauche républicaine. Les leaders des deux partis, crédités du plus d'intentions de vote dans les sondages, étaient prêtes à s'affronter, mais elles ont été déstabilisées dès le début de la rencontre par des questions sociales.
Il est probable qu'au cours de cette discussion, nous parlions presque exclusivement du processus indépendantiste catalan. C'est pourquoi, auparavant, j'aimerais vous poser quelques questions sur d'autres thèmes. Par exemple, pourriez-vous d'abord me dire quel est le taux de chômage actuel en Catalogne?
Je crois qu'il est autour de 19-20%.
Je suis d'accord.
Eh bien, selon l'enquête sur la population active, il est de 12,5%. Et savez-vous combien de réfugiés accueille actuellement la Catalogne?
On ne peut pas vraiment savoir.
À peu près quelques centaines.
Il y a actuellement 1169 réfugiés qui sont accueillis en Catalogne.
Pour Sonia Fuertes, présidente d'une fédération catalane d'associations d'action sociale, la question du séparatisme est tellement présente dans les médias qu'elle fait oublier les problématiques sociales.
Nous connaissons tous très bien les positions des forces politiques en présence sur l'indépendance ou la mise sous tutelle de la région. Il n'y a aucune surprise à attendre sur ce sujet. Et le fait qu'il n'y ait aucun autre sujet de débat rend invisible la situation d'exclusion sociale que vivent énormément de personnes. Et cela appauvrit le débat politique.
Et pourtant, les propositions sociales existent bel et bien dans les programmes électoraux des candidats. Mais quand les politiques commencent à en parler, ils finissent souvent par s'embarquer dans des explications complexes avec de nombreux chiffres que le grand public a du mal à digérer. Pour Sonia Fuertes, il faut revenir aux problèmes les plus concrets, comme le taux de risque de pauvreté qui est de 19% en Catalogne.
À cause de la hausse des prix et des contrats de plus en plus précaires, beaucoup de personnes se rapprochent du seuil de pauvreté, même celles qui travaillent. C'est évident qu'avec un salaire de 700 à 800 euros par mois, un contrat de travail de 1 à 3 mois et un loyer d'environ 1000 euros à Barcelone, c'est impossible de vivre dignement.
La problématique du logement est un des thèmes qui préoccupe le plus les habitants de Barcelone et de ses environs, selon une enquête récente. C'est la raison pour laquelle le syndicat barcelonais des locataires a organisé il y a quelques jours un débat sur cette question en présence des représentants des 7 partis politiques engagés dans ces élections. Mais pour Marta Ilraga, porte-parole du syndicat, le débat n'a pas été fructueux.
La plupart des partis font très peu de propositions et ne développent pas du tout cette question. Le problème fondamental, c'est que la loi qui permet que les loyers augmentent est une loi nationale qui s'applique pour tout le pays et qui ne dépend pas des régions. Les partis ont donc rejeté la responsabilité sur Madrid.
Le prix des loyers a augmenté de près de 20% ces dernières années à Barcelone. C'est la raison pour laquelle le syndicat des locataires propose la mise en place d'un indice de référence pour contrôler le marché immobilier.
Ce que nous souhaitons, c'est un indice qui tienne compte des revenus des familles, mais aussi d'autres facteurs sociaux concernant la zone où se trouve le logement. Il faut que le prix à payer soit clairement indiqué et que cet indice soit à caractère contraignant pour que les loyers ne continue pas d'augmenter indéfiniment à chaque fin de contrat.
Autre grand absent du débat, la santé publique. Roger Bernat Landoni est le porte-parole de l'Association catalane de défense de la santé publique. Pour lui, de nombreuses propositions auraient pu être faites.
On a investi beaucoup plus dans la technologie médicale. Le système s'est centré davantage sur les hôpitaux alors que le budget des soins de base a diminué. La majorité des propositions politiques ne s'attaquent directement ni au problème de la diminution du personnel de santé, santé, ni au problème de la médicalisation excessive qui existe aujourd'hui.
En Catalogne, les partis qui ont fait le plus de propositions sociales sont la coalition de gauche radicale Catalunya en Comú Podem et le parti d'extrême gauche La CUP, très bas dans les sondages. Malgré le travail des associations pour rendre visibles les thématiques sociales, le vote de ce jeudi se jouera donc bien sur la question de l'indépendance de la région.
Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. L'actualité, c'est à découvrir également sur notre site internet rtfrance.tv. Dans 30 minutes, une nouvelle édition. Restez avec nous sur RT France.
Elle était déjà présente en 4 langues dans plus d'une centaine de pays, notamment en espagnol, en anglais ou encore en arabe. Vous venez de l'entendre, la chaîne d'information internationale russe, Russia Today, RT, a désormais sa déclinaison en français, RT France. Elle a donc été lancée lundi soir sur le câble et le satellite. Une chaîne à la réputation sulfureuse, accueillie chez nous, il faut bien le dire, avec une certaine méfiance pour la chercheuse Cécile Vessier, spécialiste des réseaux du Kremlin. Cette méfiance est justifiée.
Russia Today n'est pas une chaîne comme les autres, dans le sens où d'abord c'est une chaîne qui est entièrement financée par le Kremlin. Le Kremlin a relancé un projet qui consiste à avoir ses chaînes présentant son point de vue dans différents pays et dans les langues de ces pays. Alors, on peut dire, et certaines personnes vont le dire, mais après tout, c'est normal, la Grande-Bretagne fait ça avec la BBC, etc. La France fait ça avec France 24. Bon, ça n'a strictement rien à voir. Cela s'inscrit non pas dans une politique d'image d'un État ou de représentation d'un État, ça s'inscrit dans la continuité d'un certain type de communication qui était en œuvre en Union soviétique, qui consiste à affirmer un point de vue, à éventuellement saper d'ailleurs aussi les bases et les valeurs du pays dans lequel ces chaînes et ces médias sont implantés.
Vous dites, oui, que c'est clairement pour vous un instrument de propagande, un instrument du soft power russe ?
On n'est pas dans le soft power. Le soft power, si vous voulez, c'est qu'en fait, on donne envie aux gens de vous désirer. C'est exactement ce qu'ont fait les Américains quand ils ont envoyé gratuitement, d'ailleurs au début, après la guerre, toute une quantité de films américains en disant « les gens en Europe vont avoir envie du mode de vie américain ». Là, on n'est pas du tout dans cette logique. On est dans une logique de ce qui a été très précisément décrit dans la résolution du Parlement européen de novembre 2016 comme une guerre hybride, c'est-à-dire une guerre qui a une partie idéologique, mais toute une partie aussi sur le terrain. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe actuellement en Ukraine de l'Est, ce qui s'est passé en Crimée. C'est-à-dire qu'on est dans une guerre et RT fait partie des outils de cette guerre hybride.
Alors en même temps, Cécile Vessier, tous les dirigeants de RT en France multiplient les interviews et ils insistent sur le fait que RT est une chaîne française qui va employer des journalistes français et qui sera soumise à l'autorité du CSA.
Ce qui m'inquiète, c'est le comité d'éthique, puisqu'on nous dit que ça va être suivi par un comité d'éthique. Sauf que dans ce comité d'éthique, pour l'instant, on nous annonce 2 personnes. On nous annonce M. Mariani, qui ne cache pas être un partisan absolument résolu, convaincu de M. Poutine. J'ai un petit peu des doutes sur, on va dire, son impartialité. Et d'autre part, M. Sapir, je dirais, qui est lui aussi, d'ailleurs, il le cache absolument pas, je dirais, un partisan de M. Poutine, qui fait déjà des émissions depuis plusieurs années sur Spoutnik et qui a, je dirais, des liens très très étroits avec une certaine Russie officielle depuis des années. Donc, si vous voulez, ce n'est pas exactement ce qu'on appelle des personnes impartiales,
neutres,
à même de juger s'il y a ou non propagande. Et visiblement, il y a un petit peu des difficultés, je dirais, à recruter des gens dans ce comité d'éthique. Il est certain que non, RT n'est pas une chaîne comme peuvent l'être France 24 ou la BBC. Ça n'est pas une chaîne d'information et de journalistes.
En même temps, RT dit qu'elle va proposer de l'information alternative, de l'information qu'on ne trouve pas ailleurs. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là ?
C'est justement un petit peu ce qui fait peur, si vous voulez. Parce que quand on vous parle d'information alternative, et le mot est choisi de manière très consciente, c'est comme quand on vous parle de réinformation. C'est-à-dire qu'il y a tout un discours qui n'est pas qu'un discours du Kremlin, qui est un discours général, notamment en Europe occidentale, notamment aux États-Unis, où vous avez ce discours qui s'est répandu beaucoup sur Internet de gens qui disent, alors vous savez, c'est l'ancien, entre guillemets, on nous cache tout, on nous dit rien.
Oui, les thèses complotistes, oui.
Voilà, cette idée qui est très répandue et qui fait le lit du populisme qu'on voit se développer, où il y a des éléments de vérité, il y a des éléments, je dirais ensuite, complètement caricaturaux, pour dire il y aurait une caste d'élite qui nous cache l'information à nous sur cette perception d'une rupture en partie réelle, en partie grossie, en partie exagérée, entre des gens qui sont vus comme une élite protégée et des gens qui sont vus comme une population ayant peu de main sur l'événement et sur le discours qui est tenu sur cet événement. Donc, une perception qui fait le lit des populismes actuellement, se greffe ensuite toute une série de thèses complètement complotistes, avec notamment toute une série de thèses antisémites sur les sionistes qui manipuleraient l'information, sur les médias qui seraient aux mains justement des Rothschild et compagnie, et on voit ressortir ça sur les réseaux sociaux et circuler ça de manière importante. Et ça, vous remarquerez que les gens qui font circuler ce type d'information, à chaque fois ils vous le disent, mais nous on réinforme, sauf que réinformer ça prend un autre sens dans ce contexte, c'est-à-dire que ce qui est implicite, c'est on va vous dire ce que les autres vous cachent.
Avec ce discours-là, est-ce que RT ne peut pas trouver justement un public en France ?
Ça, incontestablement, elle va trouver un public, puisque ce public existe déjà. C'est le public qu'on a justement sur les sites qui se disent sites de réinformation. Alors, on a des sites comme ça à l'extrême droite, on a des sites comme ça à l'extrême gauche. Le public est là dans toute l'Europe. Et encore une fois, c'est ce public qui fait le lit des populismes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'étonner de voir un certain nombre de populismes triompher actuellement, que ce soit en Autriche, que ce soit en Pologne, que ce soit en Hongrie, que ce soit, je dirais même, dans une certaine mesure, aux Pays-Bas ou en Grande-Bretagne. Je veux dire, il y a des raisons intrinsèques et on peut compter sur RT pour mettre son doigt là où ça fait mal, ça, ils savent faire ça très très bien, et pour essayer d'appuyer sur les failles qui existent dans le système. Mais ça, ça s'appelle une action politique, une action de propagande, ça n'est en rien de l'information.
La chercheuse Cécile Vessier, professeure à l'Université de Rennes et auteure des réseaux du Kremlin en France. Des dizaines de milliers d'hectares partis en fumée, 110 morts, les feux auront été ravageurs au Portugal en 2017. En cause des sécheresses sévères, de la chaleur, un vent intense. Et c'est toute l'économie pastorale qui a été particulièrement touchée. Du coup, en ces fêtes de fin d'année, 2 mai risquent de manquer sur la table des Portugais, le fameux fromage d'Estrela et les pignons de pin. Reportage Marilyn Darcy dans la Serra d'Estrela, le massif central portugais.
À la bergerie de Joaquim Nuno de Rebelo, la traite des brebis commence tôt sur fond de radio. Joaquim va recueillir 20 litres de lait avec lequel sera fait le fromage de la Serra d'Estrela, le plus apprécié au moment de Noël. Mais cette année, la gourmandise sera rare, une conséquence des incendies qui ont touché la Serra d'Estrela. Joaquim Rebelo.
Beaucoup de brebis sont mortes, 5000 bêtes, comme celles que j'ai dans ma bergerie. Celle du fromage de Serra. On va manquer de lait, alors on va aussi manquer de fromage. Et le litre de lait de brebis est à 1 euro chez les industriels.
Non loin de la bergerie, la fromagerie artisanale débute sa production de Serra d'Estrela. Une appellation contrôlée pour un fromage que l'on dit amanteigado, comme du beurre. Il se confectionne dès septembre pour arriver sur les tables de fête, moelleux, fondant, juste à cœur. Virginia, employée de la fromagerie, confirme l'inquiétude de Joaquim, l'éleveur.
Oui, le fromage est rare à cause de la sécheresse et des incendies. Il n'a pas plu, il n'y a pas assez d'herbe dans les champs. Pour Noël, cette année, ce sera sans fromage. Nous, ici, nous n'avons recueilli qu'une vingtaine de litres de lait, c'est rien. Alors que d'habitude, à Noël, on n'en manque pas.
Certains évoquent plutôt la spéculation pour faire monter les prix chez les producteurs. Mais s'il est difficile de mesurer l'impact réel des incendies sur les cheptels, la cendre et les troncs noircis qui recouvrent les contreforts de la Serra sont là pour les rappeler. Le village de Piodon, l'un des plus beaux du Portugal, a été épargné de justesse. Candida Lopes, employée au petit musée de Piodon, en tremble encore.
On a eu vraiment peur que le feu s'approche davantage des maisons et nous rattrape. Mais heureusement, la pluie est arrivée pour l'éteindre. Certains habitants ont fui, d'autres sont restés pour surveiller et protéger le village. Ça a été 2 nuits et 3 jours d'angoisse. Piodão a été épargné, mais les autres villages autour ont perdu des vies, des maisons, surtout dans la montagne.
90% de la région d'Arganil, auquel appartient le village de Piodão, a été détruit par les incendies. Beaucoup de cultures ont souffert de la sécheresse et des incendies de l'été dernier. C'est le cas des fruits secs, les fruits mendiants, représentant les 4 ordres religieux et qui sont consommés en abondance à la fin de l'année. Les pignons, qui se vendent déjà cher, pourraient atteindre des fortunes. Maria da Piedade est une cliente habituée de l'épicerie que tient Mita à Anjos, c'est dans le centre de Lisbonne. Elle surveille le cours du pignon.
Le pignon se fait rare car les feux ont détruit les plantations de pain. Moi d'habitude je n'achète qu'un petit sac seulement pour respecter la tradition et puis c'est cher. Ça se comprend aussi, c'est beaucoup de travail pour les récolter.
Mita, qui tient son épicerie depuis 25 ans, vend les pignons 55 euros le kilo, mais elle se veut rassurante.
Le prix est identique à l'an dernier, je n'ai pas de raison de me plaindre. Mais ce sera peut-être autre chose, l'an prochain, on ne sait jamais. À cause des incendies, beaucoup de pains ont brûlé. Et ici, on consomme beaucoup de pignons, les clients les achètent par 100 ou 200 grammes. Mais là, j'ai une commande d'un demi-kilo qui m'est réservée.
6 mois après les premiers incendies meurtriers qui ont frappé le pays, les cicatrices sont encore très visibles. Ce Noël, noisettes, amandes, noix et pignons auront un peu le goût et l'amertume de la tristesse. I want to be a part of it. New York, New York.
Mais que vient donc faire New York dans le Donbass, dans cette région de l'est de l'Ukraine déchirée par la guerre? Eh bien, malgré la précarité de la situation, certains habitants pensent quand même à l'avenir. C'est le cas de la petite ville de Novorossiysk, qui songe très sérieusement à reprendre son nom de baptême, New York donc. Sur place, Sébastien Gobert nous explique tout.
À l'entrée de Novorossiysk, rien de spécial. C'est une commune d'environ 10 000 habitants, comme on en traverse des dizaines dans la région. Des rues vides, une chaussée percée de nids de poules, des usines d'un autre temps. Mais pourtant, un vent de changement souffle sur la ville. Tétiana Krasko est la secrétaire du conseil municipal.
Nous avons l'ambition de rendre à notre petite ville son nom historique, New York.
La ville a été fondée dans la seconde moitié du XVIIIe siècle par des colons allemands, invités par les tsars de Russie pour développer des régions nouvellement conquises. Pourquoi le nom de New York ? Les légendes sont nombreuses, allant de traditions allemandes à des histoires d'amour transatlantique. En fait, il n'y a pas de version officielle. Ce qui est sûr, c'est que le pouvoir soviétique a préféré changer le nom en 1951, après la Seconde Guerre mondiale et l'évacuation des habitants allemands. Aujourd'hui, la ville est à 7 km de la ligne de front. Elle a beaucoup souffert de la guerre et continue à subir des bombardements occasionnels. Le conseil municipal tente d'encourager la communauté à continuer à vivre bon an mal an. Et Tétiana Krasko ne manque pas d'humour.
On en plaisante, nous sommes tout proches de la ligne de front. Si on changeait le nom du village, alors ils y réfléchiraient à 2 fois avant de nous bombarder. Vous vous imaginez l'effet que cela aurait dans les médias? On a bombardé New York. Et avant de savoir si on parle de la ville ou du village, ce serait un scandale.
De fait, le conseil municipal a déjà décidé du changement de nom et du retour à l'appellation historique de New York. Mais la décision est bloquée par les autorités régionales et nationales à cause du statut spécial qui échoit aux villes situées dans la zone de guerre. Novorossiysk est une petite localité. Les usines, par exemple, de production de tuiles étaient autrefois de très bonne qualité. Elles sont aujourd'hui soit fermées, soit en décrépitude. Les investisseurs ne se précipitent pas pour développer des activités à 7 km de la ligne de front. Tétiana Krasko ne se fait pas d'illusions. Mais elle compte quand même sur l'effet psychologique d'un New York dans le Donbass.
Nous voulons vraiment que la vie se poursuive ici, que les habitants s'épanouissent. Peut-être que changer le nom, ce sera un nouveau souffle, un nouvel élan.
Sur le long terme, cela voudrait dire développer une nouvelle image de la ville, miser sur le tourisme et faire de New York une véritable curiosité dans la région. L'ambition est là, l'enthousiasme est appréciable. Dans le Donbass, New York est une ville où les idées ne dorment jamais.
À la réalisation, comme d'habitude, il y avait l'excellente Françoise Grelot. Restez sur RFI dans quelques instants, le journal.